L'Association pour la libération des ondes, l'ALO, les défenseurs donc des radios libres, n'y sont pas allés de main morte cet après-midi.
C'était les copains d'abord et les premiers transistors.
Petite radio, non pas pirate, car le terme n'existe plus depuis le 10 mai, est ce qu'on appelle une radio libre, car bien que toujours interdite par la loi de 1974, elle est tolérée par le nouveau gouvernement socialiste, et cela jusqu'à l'adoption d'un nouveau projet de loi qui aura lieu à l'Assemblée la semaine prochaine.
En ce temps-là, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans depuis longtemps. Faire passer à la radio.
Il fallait bien au moins une victoire de la gauche pour assister aux assises des deux fédérations qui représentent les petites radios.
François Mitterrand, ça vous dit quelque chose?
Un peu, ouais.
D'un seul coup, il y a eu plein de fréquences qui se sont ouvertes. Des trucs très amateurs. Et ma première radio... Donc j'étais en fac et la radio s'appelait RTH, Radio Transélium. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. Hein. Elle était à Villejuif, près de Paris, et c'était n'importe quoi. Quand on voulait faire pipi, parce qu'on émettait d'un appartement, hein, il fallait attendre qu'un disque passe, donc c'était vraiment de l'artisanat. Voilà ma première fois en radio. Passionnant, non? Voilà, c'était, non, c'était, c'était démocratique. D'un seul coup, chacun pouvait prendre le micro et faire des petites FM, quoi. Mais il y avait beaucoup de n'importe quoi. La liberté a un prix, parfois. Je pense que mon premier boulot, c'était dans une radio qui n'existe plus non plus, hein, qui était à Versailles. Qui s'appelait CVS, et donc là, on faisait à la fois des journaux. Il y avait un super matos, donc ce qui était bien pour apprendre à moindre frais, et on faisait des journaux qui duraient une heure, c'était n'importe quoi. Donc voilà, sinon on traitait l'actualité régionale, donc je dois avoir probablement quelque part un reportage à la fête des petits pois de Clamart, des choses comme ça, quoi. Où fallait de toute façon faire l'interview de l'élu local parce que la radio était financée par l'élu local, donc enfin je veux dire par les municipalités, donc voilà, c'était le passage obligé. Je me suis bien emmerdée, mais on apprenait le boulot. Voilà, il fallait attendre 2 heures un type qui était juste maire mais qui n'avait pas envie de parler à ce moment-là, et dont je me foutais honnêtement, mais comme c'est lui qui finançait la radio, il fallait quand même l'attendre dans la pluie, le froid. C'est bon, je vous ai fait pleurer là. Là. Sinon, bah, faut faire ses classes. Hein. J'ai fait Rosny-sous-Bois une fois pour la circu. Invité ?
Oui.
Il y en avait deux. Le premier invité, c'était Michel Rocard. Et comme l'émission à l'époque faisait quelque chose comme, je sais plus si c'était 25 ou 35 minutes, avoir Michel Rocard, c'était un vrai défi. Puisqu'il n'y a pas une réponse qui est en dessous de 3 minutes, en gros, avec Michel Rocard. Et sinon, il y avait le parrain de l'émission au téléphone qui s'appelle Alain Souchon, puisqu'on lui a piqué, comme on nous parle, c'est un extrait de Foule Sentimentale. Voilà. Et depuis, il y en a eu 1 million d'autres. On est compte, 2 interviews par jour, minimum. Oh, à la chaîne. J'ai l'impression de produire des questions, moi. J'aurais passé ma vie à poser des questions, en fait. Première bourde. Je sais pas. Non, je me souviens d'avoir eu un méga chat dans la gorge. Horrible. Un truc qu'on peut plus parler du tout, du tout, du tout, donc c'est très très ennuyeux. J'ai dû avoir des fous rires, et puis oui, j'ai dû dire des conneries, mais l'interview, ça se fait à deux, donc il y a des gens avec qui on se comprend pas du tout, ça peut arriver. Mmh. Voilà, il y a des gens qui sont mal polis, ça peut arriver. J'en ai rencontré. Même qui sont odieux, ça arrive. Mais bon, c'est pas... Voilà, et puis oui, on peut dire des conneries, on peut bafouiller, effectivement, on peut avoir un fou rire. C'est le direct, les joies du direct. Celle qui me fait cauchemarder depuis plusieurs décennies. attirance pour la radio très très tôt, au point donc de faire de la radio libre, comme je vous l'ai raconté. Et après, je suis entrée à l'école de journalisme, et là, la radio a continué à me plaire quand on a appris à la faire. J'aime profondément la radio parce que, pour des tas de raisons, parce que la matière première, c'est le son, que c'est le média le plus direct, c'est le média le plus léger, c'est le média le plus vrai. Et c'est celui qui, en même temps, laisse de la place à l'imaginaire. C'est-à-dire, à la télé, on montre tout, on déballe tout sur la table, c'est ça qui me plaît pas. Alors qu'à la radio, on ne fait que suggérer et que l'imaginaire de l'auditeur fait le reste du chemin. Alors en plus de cet amour pour la radio, assez inconditionnel puisqu'il dure toujours, s'est développé parallèlement une espèce d'aversion pour la télévision parce que je ne vois pas l'intérêt de passer à la télévision en fait. Et évidemment, ça a surpris dès le premier jour parce qu'on est quand même dans un monde où les gens, et ils le prouvent, hein, tueraient père et mère pour passer à la télé. Enfin, je pense que n'importe quel crétin aujourd'hui peut passer à la télé très très facilement. Donc, et malgré tout, ce média continue à avoir un aspect encore magique. C'est-à-dire, on a l'impression que une fois que vous êtes passé à la télé, vous êtes différent, il y a une plus-value, vous valez davantage, les autres vous regardent. Ah, vous êtes. C'est curieux, hein, ça perdure cette espèce d'effet baguette magique. Moi, je trouve que professionnellement, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, alors si, après on parle du terrain, faire du reportage en télé, très très bien, hein. Mais passer à la télé, je trouve que ça n'a simplement aucun intérêt. Présenter un journal, ça n'a aucun intérêt. Faire des interviews, généralement, non, je vois pas bien l'intérêt de la télévision dans son ensemble, si ce n'est la force de l'image, mais alors là c'est plutôt pour faire du documentaire.